Bonjour à tous, Liliane sur Radio Grand Ciel pour l'émission Figures de l'Histoire. Nous voici arrivés à la dernière émission concernant les papes en Avignon. Alors je vous rappelle quand même qui ils sont, hein. Clément V, Jean XXII, Benoît XII, Clément VI, Innocent VI, Urbain V et Grégoire XI. Je vous ai parlé des gouvernements de ces papes, de leur démêlée avec les princes, et on reparle des croisades. Il y en a déjà eu 3. La dernière a vu la mort de Saint-Louis, je vous le rappelle. Hein. Pour le peuple chrétien, la croisade devient un exercice religieux, alors qu'avant elle ne l'était pas. Hein. C'était quelquefois pour fuir des dettes ou pour aller s'enrichir. Jean XII, la croix possible. En 1317-1319, grâce à l'impôt, il fait armer 10 galères qu'il expédie en Orient, persuadé que les princes chrétiens vont suivre. Eh bien, c'est raté parce qu'aucun ne le fait. Les années passent, l'impôt, alors pour le pape, ça s'appelle la décime, un dixième hein, des revenus, ne sert plus à une future croisade, mais aux dépenses du royaume. Il est évident qu'on ne fera rien si le roi de France et celui d'Angleterre n'apportent pas leur présence. Le futur Clément VI, qui alors est conseiller de Philippe VI de Valois, roi de France, hein, essaye de faire désigner le roi de France comme chef de la future croisade. Il devient pape. Il voit dans la croisade le moyen de redorer le blason de la papauté. En 1344 alors, on passe aux actes. Clément VI forme une ligue avec Venise, qui est une république à l'époque, hein, Chypre, et l'ordre des Hospitaliers. Ce sont ceux qui sont maintenant dans l'île de Rhodes. Il déclare la guerre aux corsaires turcs, parce que ceux-là sévissent en Méditerranée. L'armée des croisés prend alors Smyrne, en Asie mineure, mais on ne voit toujours aucun prince arriver en renfort. Il y en a un qui essaye, le dauphin Humbert III du Viennois. Bah, il hésite aussi. Comme il est perclus de dettes, il vend, ça c'est intéressant, écoutez bien, il vend le Viennois à Philippe VI, au roi de France, pour 120 000 florins et une rente viagère de 10 000 florins. À sa mort, le Dauphiné reviendra au fils aîné du roi de France. C'est depuis ce moment-là que le fils aîné porte le nom de Dauphin. La croisade donc s'arrête là. Et soudain, la situation empire. En 1354, les Ottomans franchissent les Dardanelles, prennent Gallipoli qui contrôle le détroit, ils pénètrent en Europe. L'Occident alors commence à s'inquiéter. Heureusement, l'ordre de l'hôpital installé à Rhodes contrôle la Méditerranée. Une crise éclate, Rogue n'a plus les moyens d'armer une escadre. Elle se contente de défendre. Alors à ce moment-là, Innocent VI pense qu'il doit intervenir. Bon, il n'a pas beaucoup d'argent, donc il fait appel à Juan Fernandez de Heredia, grand seigneur d'Aragon. Ce dernier, il est veuf, il est entré à l'ordre des Hospitaliers. Il a beaucoup de qualités, mais une ambition dévorante. Il vit comme un prince. Cependant, eh bien, il se prête au projet du pape. Le roi de Chypre, Pierre Ier de Lusignan, met sur pied une armée. À partir de 1361, ce sont des assauts qui sont menés contre les côtes d'Égypte, de Syrie et de Cilicie. On occupe même Alexandrie. Mais tous défaits quand il y a le pape Urbain V. Jean le Bon, roi de France, a bien l'intention de prendre la croix. Mais, manque de chance, il est fait prisonnier à Poitiers par les Anglais et il faut payer une énorme rançon. Alors, il pense à se servir de la décime, c'est-à-dire de l'impôt qui est prélevé pour le pape. Alors, le pape lui met en main le marché suivant. Il lui dit « Ou bien, je vous donne le droit de devez la décime pendant 6 ans et vous faites la croisade, ou alors une décime pendant 1 an pour aider à chasser les compagnies qui infestaient le pays. » C'était des compagnies qui se louaient, vous savez, des mercenaires finalement. Et quand ils n'avaient pas d'embauche, eh bien, ils pillaient le pays. Ils se servaient sur les gens. Alors, rien ne se fait car Jean le Bon meurt à Londres le 8 avril 1364. L'élection de Grégoire XI remet la croisade à l'ordre du jour. Mais le pape, il pense à autre chose aussi. Il pense à revenir à Rome. Et la croisade passe au deuxième plan. Alors, pour s'installer à Rome, il a fait commencer des travaux et il annonce qu'il y partira bientôt. Nous sommes en septembre 1366. Il envoie des hommes de confiance à Viterbe pour un premier hébergement et ensuite à Rome. Pourquoi ? Pour faire remettre en état les basiliques de Saint-Jean de Latran et de Saint-Paul hors les murs et puis le palais pontifical du Latran. Ce sont les toits qu'il faut refaire, ça coûte cher. Le roi de France Charles V n'est pas content et envoie une ambassade pour dissuader le pape de partir. Ben oui, c'était intéressant d'avoir le pape à Avignon, même au point de vue commercial. Eh ben, c'est raté. Encore raté les menaces des cardinaux de ne pas suivre le pape. Urbain V quitte Avignon le 30 avril 1367. Le 6 mai, il est à Marseille. Le Sacré Collège tente une dernière fois de dissuader. Le pape réplique que des cardinaux, ça se fabrique. Le 23 mai, on fête l'ascension à Gênes. Urbain V est à Viterbe. Le 9 juin, il décide d'y passer l'été, parce qu'il fait très chaud à Rome en été. L'entourage du pape, français, est mal vu des habitants. Et finalement, il y a des émeutes. On part donc à Rome le 16 octobre. Les Français se font discrets pendant que les Italiens paradent. Amédée de Savoie, Niccolo d'Est, de Camarino, de Malatesta, toutes ces familles-là regardent les Français d'un drôle d'œil. Urbain V s'installe au Latran. L'état de ce dernier est tel que le pape regrette le palais d'Avignon. L'empereur Charles IV rejoint le pape à Rome le 21 octobre 1368. Pour montrer sa déférence, il descend de cheval, tient les rênes du cheval d'Urbain V et il sert la messe. Le pape est tout content. Les Italiens, peu moins. Sur les 8 cardinaux que le pape a nommés, un seul est italien. Le pontificat d'Urbain V se solde par 2 échecs. Il ne parvient pas à porter le projet de croisade au-delà des déclarations d'intention. Et puis, le deuxième échec, c'est la réinstallation à Rome qui n'a apporté que des complications dans la gestion des affaires italiennes. De telle sorte qu'Urbain V décide de faire un petit tour à Avignon. Il y arrive le 18 décembre 1366, complètement épuisé, et il meurt à Avignon le 19. Il est enterré à Saint-Victor de Marseille. Il y avait fait faire son tombeau. Donc un nouveau pape est élu, c'est Grégoire XI. Et celui-là, il décide de repartir à Rome. Seulement, la situation en Italie est catastrophique. Nous allons faire une première pause musicale.
Thank you.
Nous sommes toujours sur Radio Grand Ciel. Je vous raconte la fin des papes, du séjour des papes en Avignon. Alors pour l'instant, ça va mal en Italie. L'Italie, je vous rappelle, c'est plein de petits états, tout petits. Quelquefois, c'est une seule ville. Avec à la tête des gens extrêmement ambitieux, ils se battent tous pour évidemment conquérir le voisin. Alors, la première tâche de Grégoire XI, c'est de rétablir l'ordre. Il a écrit à tous les rois pour leur faire connaître sa décision de séjourner à Rome. Pour ce faire, il faut de l'argent. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On taxe, on emprunte. En 1376, on passe aux actes. Le cardinal Robert de Genève est parti devant le 27 mai. Le 13 septembre 1376, la cour pontificale quitte Avignon. Ceux qui possèdent des maisons à Avignon ne les vendent pas, ils les louent. On ne sait jamais, on pourrait y revenir. Le voyage est épouvantable. Ce sont des tempêtes, ou bien on manque carrément de vent. Les incidents sont tels que certains disent que le pape part à Rome contre la volonté de Dieu. Enfin, on débarque le 17 janvier. Le voyage a duré 4 mois. C'est aussi la durée des fêtes et des cérémonies pour montrer qu'on est content de voir le pape à Rome. Le voyage a fatigué Grégoire XI. Il passe l'été alors à Anagni. Il revient à Rome le 7 novembre. Il a 47 ans, mais sa santé est délabrée. Il meurt dans la nuit du 25 au 26 mars 1378. Avant de mourir, le pape avait supprimé la loi exigeant que le conclave élise le nouveau pape dans la ville où est mort le précédent. Ce n'était pas une mauvaise idée. Les cardinaux, alors, sentant l'atmosphère belliqueuse de Rome, pensent qu'il vaut mieux siéger en dehors de la ville. Eh bien, ce n'est pas gagné. Parce que lorsqu'un cardinal sort, par exemple, la foule crie qu'il faut un pape romain ou au moins italien. À tout moment, on frôle l'incident. Il y a même des menaces de mort. 16 cardinaux alors entrent en conclave le 8 avril. Il faut la majorité des 2/3 et aucun parti ne compte 11 voix. La foule est là à l'extérieur, qui crie à mort. Ça me fait rire parce que vraiment, c'est compliqué cette histoire. Alors après bien des discussions, on élit l'archevêque de Bari, qui n'est pas présent, hein, ça n'est pas un cardinal. Il s'appelle Bartolomeo Prignano. Donc on le fait venir, on lui apprend qu'il est nommé pape. Il prend le nom d'Urbain VI. Mais c'est un Italien, ce n'est pas un Romain. Bon, on pense quand même qu'il va faire l'affaire. On peut dire que c'est une élection par peur du peuple romain. Ça, c'est important, hein, parce que Après ça, il y aura des histoires en disant que finalement, c'est pas le vrai pape, et ainsi de suite. Vous allez voir la suite. Bon, alors on dit qu'en effet, c'est le peuple romain qui a élu le pape. Certains cardinaux se gênent pas d'ailleurs pour le dire. Urbain VI ne se sent pas solidaire du tout du sacré collège et de ses intérêts politiques et financiers. Il va montrer une volonté de réforme. Si bien que les cardinaux vont prendre ça pour de l'hostilité et ça va mal se passer entre les cardinaux et le pape. Alors intervient un personnage à la solde du roi de France qui se dit « je vais mettre mon nez dans les affaires ». C'est Jean de Lagrange. Le roi de France à l'époque, c'est Charles V. Il n'est pas content que le nouveau pape ne soit pas français. Ben oui, comme les papes en Avignon. Hein. Et les cardinaux du Sacré Collège d'avoir élu quelqu'un sous la pression du peuple romain. L'attitude du pape n'arrange pas les choses, parce que figurez-vous qu'il va jusqu'à insulter les prélats. Il multiplie les avanies, il a un fichu caractère, il dénonce le train de vie des cardinaux, ça c'est pas mauvais ça. L'un d'eux, Robert de Genève, lui dit « Vous voulez diminuer notre honneur ? Eh bien nous, nous allons diminuer le vôtre !» Voilà comment ça se passait. Urbain VI n'est pas élu depuis 3 semaines que le prieur de la Chartreuse de Gargona écrit à Catherine de Sienne « Notre nouveau Saint-Père est un homme terrible et qui épouvante fort les gens par ses actes et par ses paroles. Il indispose tout le monde. » Alors on ne s'étonne pas qu'on ourdisse un complot. En juillet 1378, tout le monde s'attend à un coup de théâtre. Pierre de Cros fait partir pour Avignon une partie du trésor, en disant « ça va mal, il faut me mettre ça à l'abri ». Le 20 juillet, les cardinaux rebelles prennent, pour ne pas être incendiés ou pillés par des hommes d'armes, ils prennent la direction d'Avignon. Comme le dit un poète de l'époque, il s'appelle Eustache Deschamps, « tout va mal ». Dès novembre 1378, Urbain VI prêche une croisade contre les dissidents, hein, pas pour aller à Jérusalem. Chacun interprète les discours du pape, parce qu'il nomme pas carrément les dissidents. Il dit pas qui c'est. Alors, chacun prend ça différemment. À Naples, on comprend qu'il faut s'attaquer à la reine Jeanne. En Angleterre, que c'est l'autorisation de reprendre les territoires de Charles V qu'il avait acquis contre les Anglais il y a 10 ans. Urbain VI espère l'aide de la branche hongroise des Angevins. Bref, on prépare la guerre sans savoir quelle guerre ça sera. Hein, est-ce que ça va être la guerre en Angleterre, en France ? Est-ce que ça va être la guerre à Naples ? Bref. Clément VII arme aussi. Il charge son neveu, Louis de Montjoie, d'occuper Rome avec une petite armée. Tout le monde se bat. Personne ne gagne. Le 15 octobre 1389, Urbain VI meurt au sommet de l'impopularité, mais personne ne pense à faire l'unité autour du nouveau pape Clément VII. Alors, le 2 novembre, les 14 cardinaux à Rome se donnent un nouveau pape, Pietro Tomacelli, qui prend le nom de Benoît IX. Alors nous voilà avec Clément VII à Avignon, Benoît IX à Rome. Deux papes. Jusqu'au 16 septembre 1394, lorsque meurt Clément VII. À Avignon, on décide qu'il y a urgence à élire un pape. À Rome, on espère que les cardinaux vont mettre fin au schisme. C'est raté. Les cardinaux avignonnais élisent Pedro de Luna, qui prend le nom de Benoît XIII. La cour de France est toute contente. Pedro de Luna, il a 65 ans, il est considéré comme un homme d'une science éminente et de grande circonspection. Mais il a quand même un défaut. Il est très entêté, je dirais même très très entêté. Vous allez voir la suite. À Avignon, on peut parler de disette d'argent. On ne construit plus, les fêtes se font rares, le train de vie des papes a changé. Les cardinaux ne sont pas à l'abri du besoin. Alors on essaye de quoi faire ? Ben d'imposer. Le roi de France prête même des receveurs pour prélever des subsides. Si bien que les gens ne sont pas contents, ils se révoltent. Le roi, c'est Charles VI à l'époque, vous savez, celui qui devient un fou, ne peut pas se laisser atteindre par l'impopularité du fisc papal. Alors il reprend les aides qu'il avait prêtées. On a recours aux emprunts auprès des banquiers. Le crédit du pape ne suffit pas à rassurer les créanciers. Ils prennent des gages, les banquiers. et des gages qui parfois sont des gages immobiliers. Nous allons faire une deuxième pause musicale.
Thank you.
Nous sommes toujours sur Radio Grand Ciel. Je vous parle de la fin du séjour des papes en Avignon et surtout du schisme qu'il y a parce que en Avignon, on a élu un pape. À Rome, on a élu un autre pape. Nous voilà donc avec deux papes. C'est ce qu'on appelle le schisme. Et tout le monde en a assez du schisme. L'idée générale en France, c'est que les Français ne peuvent débarrasser l'Église que du pape d'Avignon, bien sûr. Hein, pas des autres. Pas de l'autre, je veux dire. Que du pape d'Avignon. Et l'unité ainsi rétablie, il sera temps de voir ce qu'on va faire de l'autre pape, celui qui est à Rome. Alors, il ne s'agit pas de savoir finalement lequel est légitime. Hein. C'est maintenant une question d'opportunité politique. Le pape d'Avignon est illégitime parce qu'il s'entête. Il faut être réaliste. En fait, il faudrait que les deux papes se retirent. Mais les deux s'y refusent. En 1392, Gerson, c'est un philosophe et un théologien qui est à la tête de l'université. L'université, à l'époque, est tenue uniquement par le parti religieux. C'est pas comme l'université de maintenant. Alors, en 1392, donc Gerson déclare que le pape qui refuse de se démettre dans l'intérêt du bien commun de la chrétienté est en état de péché mortel. On essaie de tout trouver. Hein. C'est à l'Église qu'il appartient, en pareil cas, de mettre les papes hors jeu. Mais bien sûr, avec l'aide du pouvoir temporel. En fait, l'affaire ne met en cause ni le dogme, ni l'orthodoxie doctrinale. C'est une histoire de droit pur. Alors, qui est vraiment pape ? On met en cause la régularité de leur élection. Le 29 mai 1398 s'ouvre à Paris une assemblée. On déclare que par son acharnement, Benoît XIII devient hérétique, mais aussi on dénie toute légitimité au pape de Rome. On ne met pas en doute celle des cardinaux qu'il a créés, c'est curieux. Hein ? Donc, on voudrait bien se débarrasser des deux. Alors, on passe au vote. 247 voix sur 300 pour ce qu'on appelle la soustraction, c'est-à-dire pour supprimer les deux papes. Mais ni le clergé français, ni le roi de France ne peuvent à eux seuls mettre fin au schisme. Alors, il faudrait qu'il y en ait qui suivent. Il y en a. La Provence, la Cassie, tout ça, ce sont des royaumes indépendants. Hein. La Lorraine, Cambrai, Besançon, Liège, mais pas l'empereur. Et puis l'Angleterre, elle s'en moque éperdument. L'Église se retrouve donc sans pape, puisqu'on a déposé les deux. L'organisation de l'Église de France sans pape, ça mécontente finalement tous ceux qui n'ont pas vu que la soustraction met le roi en position de force. Ben oui, parce qu'on pense que c'est le roi de France qui va nommer le pape. Benoît XIII alors prend peur, car comme il ne veut pas partir, eh bien, une armée arrive à Avignon. Alors Benoît XIII se barricade. Figurez-vous qu'il reste assiégé 5 ans. Il en faut plus pour le faire céder. Il laisse pousser sa barbe et jure de la couper uniquement quand il sera remis sur le trône pontifical. Il refuse toute rencontre en vue d'un arrangement. À Rome, Boniface IX est retranché, oui, dans le château Saint-Ange. Dans la nuit du 11 au 12 mars 1403, Benoît XIII s'évade avec la complicité des gens du duc d'Orléans. Il se réfugie à Château-Renard. Alors Château-Renard, c'est pas loin d'Avignon, hein, c'est 3 lieues. Ah oui, mais il est en Provence, c'est-à-dire chez Louis de Danjou. Il n'est plus en France. On essaie de faire se rencontrer les deux papes, c'est encore raté. Le conclave du 30 novembre 1406 élit un nouveau pape, Grégoire XII. Une nouvelle rencontre est prévue avec Benoît XIII à Savone, le 24 septembre 1407. Mais voilà que Grégoire XII, lui, il freine. Alors Benoît XIII s'installe à Perpignan en août 1408. Le 25 mars 1409 s'ouvre à Paris le concile de la réconciliation. En fait, eh bien, il y a réconciliation uniquement entre les cardinaux, pas entre les deux papes. En tout cas, le concile vote la déposition des deux papes et décide d'en élire un autre. C'est Alexandre V. On évoque la réforme de l'Église. On convient de se retrouver à ce sujet dans 3 ans. Chacun feint de croire que l'Église a enfin un pape. En fait, l'Église en a 3. Alexandre V ne réside pas à Rome, mais à Bologne. Il y meurt le 4 mai 1410. Le conclave élit alors un nouveau pape, Jean XXIII. Il a 41 ans, il réside à Rome, mais il a des exigences financières énormes. Le 28 octobre 1414, l'empereur, il s'appelle Sigismond, convoque un concile à Constance et il dit qu'il faut absolument qu'on démêle cette affaire. Jean XXIII y vient, pas Grégoire XII, ni Benoît XIII. L'empereur est d'avis, finalement, qu'il faut récuser les trois papes. Alors Jean XXIII s'engage à abdiquer si les autres en font autant. Le 29 mai, le concile vote la déposition des trois. On met Jean XXIII en prison. Grégoire XII a devancé la sentence, il s'est dépêché d'abdiquer. Et les choses sont encore bien plus difficiles avec l'endetté Benoît XIII, qui était à Avignon, enfin qui n'y est plus hein, pour l'instant. Le 26 juillet 1417, en présence de l'empereur Sigismond, il est condamné comme parjure, hérétique et schismatique, tout ça. Le 8 novembre 1417, un conclave se réunit. Le 11, Ottone Colonna est élu. Retour à la tradition, un cardinal romain, issu de l'une des plus grandes familles, c'est le jour de la Saint-Martin. Il prend le nom de Martin V et c'en est fini du schisme. Au revoir à tous.
Sous-titrage.